Bonjour Cré, ça fait plaisir de pouvoir être là ce matin. C'était pas beaucoup d'efforts puisque je viens chez mes parents régulièrement, voilà, vous m'avez déjà vu. Et donc, je suis heureux d'être là avec vous. Je viens de Lyon avec Ruth, ma femme. On vient de l'église de la rue Sonnera, dans le 8e. C'est une église qui attend avec impatience le retour de Christ, puisqu'on sait que quand à la fin, eh bien, la victoire arrivera, la trompette sonnera. Et c'est donc le nom de notre église, donc c'est bien, ça tombe bien. Il se trouve que je ne sais pas si cela vous parle, une espèce parapluie. Une espèce parapluie. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, le WWF a comme logo un panda. Eh bien, c'est une espèce parapluie. L'idée, c'est que en protégeant le panda, qui est une espèce menacée, en réalité, on protège tout un écosystème et une large biodiversité d'animaux qui gravitent autour du panda et qui habitent dans un milieu naturel à peu près similaire. Si on voulait mettre en avant le fait qu'il faut défendre absolument les araignées en raréfaction, on peut penser que ce serait peut-être serait moins d'écho que de vouloir défendre les pandas. Il se trouve que le passage que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui, que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, nous parle justement de l'identité de Christ et de la manière dont Christ est pour nous aussi une sorte de parapluie, celui par qui on peut découvrir tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour s'épanouir. J'aimerais vous proposer de regarder ensemble le chapitre 9 de Luc. Donc on est dans une série chez nous sur l'évangile de Luc et le chapitre 9 nous intéresse ce matin. Pour donner les grandes lignes de Luc, c'est un livre qui est composé de quatre grandes parties. Avec cette deuxième partie qui nous intéresse, dans laquelle se trouve le chapitre 9, dont le thème principal est « Le Fils de l'homme annonce une bonne nouvelle pour les opprimés, tout en se montrant un défi pour les puissants. » L'objectif de Luc, tout au long de l'Évangile, c'est de montrer à quel point Christ est bien un homme, le Fils de l'homme, avec des caractéristiques complètement humaines et en même temps des caractéristiques divine. Et cette manière d'étudier Luc m'intéresse beaucoup parce que, vous savez, on peut vraiment regarder la parole à trois échelles. On peut essayer de, dans notre lecture quotidienne, lire verset après verset, se pencher sur chaque mot et chaque idée. On peut aussi s'intéresser à la structure d'un livre. Et puis, on peut enfin simplement prendre la Bible en entier et puis de se dire quelle est la cohérence dans l'agencement des livres les uns par rapport aux autres. Et ce que j'aimerais vous proposer de voir ensemble sur Luc 9, c'est de voir la cohérence de ce chapitre 9. Pour bien le comprendre, il faut se pencher sur les chapitres 7 à 9, qui insistent sur le fait que Christ est un prophète, Christ est un roi, mais qu'il est plus grand qu'un prophète et qu'il est plus humble qu'un roi. Au chapitre 7, on voit que le Fils de l'homme est bien le roi attendu. Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander à Jésus, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus, par sa réponse, en expliquant qu'il guérit les personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, qu'il rend la vue aux aveugles, prouve bien qu'il est ce roi attendu. Au chapitre 8, voilà, c'est lequel? Au chapitre 8, on a aussi l'idée, ouais, celle d'avant, tac, celle d'après. J'ai besoin de la diapo parce que c'est mon texte est sur la diapositive. Au chapitre 8, on a cette idée que le Fils de l'homme est bien le Fils de Dieu. Jésus dit au sujet de la fille de Jaïrus qui est morte, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, Mon enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement et Jésus ordonna de lui donner à manger. Donc il est bien plus qu'un simple homme, puisqu'il est capable de ramener cette fille à la vie. Et alors dans le chapitre 9, je vais te laisser la main parce que je... Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, dans le chapitre 9, l'objectif c'est de... Un peu comme lorsqu'on regarde un feu d'artifice, vous savez, il y a des rouges, des bleus, des verts. Et puis, dans la dernière minute, il y a tout en même temps. Et on a un bouquet final extraordinaire. Et le chapitre 9, c'est un peu cela. Après avoir insisté sur le fait que Christ est bien roi, le fait qu'il est bien divin, et bien dans ce chapitre 9, c'est le bouquet final. Et Luc va nous multiplier les arguments pour nous faire comprendre à quel point Christ est bien un prophète, Christ est bien un roi. Et il se trouve que ce chapitre 9 comprend comme cela six histoires successives qui nous parlent des caractéristiques du prophète et du roi. Et j'aimerais vous lire les versets 18 à 27 sur le Messie de Dieu, puisque c'est notamment le passage central de ce chapitre 9. Donc Luc 9, 18 à 27. « Un jour Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question, « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent, « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » La première affirmation que nous propose ce passage, donc pas seulement celui qu'on a lu, mais le chapitre 9 dans son ensemble, c'est que Jésus est un prophète, comme Jean-Baptiste, comme Élie et comme Moïse. Ce sont les trois prophètes qui sont cités dans ce passage et auxquels il est fait référence. L'idée, c'est que de nous montrer que, de nous rappeler ce qu'est un prophète. Un prophète, dans l'Ancien Testament, et ça continue avec Jean-Baptiste, c'est un personnage qui parle au peuple juif de l'époque. Tout le monde sait ce qu'est un prophète. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. On est vraiment dans la culture religieuse de l'époque. Or, un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est celui qui va être un ambassadeur du message de Dieu auprès des hommes. Il révèle en fait ce que Dieu a à cœur aux hommes, il transmet la parole de Dieu aux hommes, et surtout il la transmet dans un langage qui est compréhensible par le peuple de Dieu. Et donc ayant cette idée en tête, on va voir en quoi Jésus est aussi un prophète, quelqu'un qui vient apporter un message de la part de Dieu, et un message qui est complètement compréhensible, et audible par ceux qui l'écoutent. Alors, dans la culture juive, ce prophète, il est attendu. On voit déjà ça dans Deutéronome 18-15, Deutéronome qui dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Donc, il y a cette idée, cette conviction que le Messie à venir est un prophète, quelqu'un qui a un message particulier de la part de Dieu. Or, on voit très bien que Jésus est un prophète comme Moïse. Dans ce passage, la première histoire qui est racontée, c'est la multiplication des pains et des vins. Des pains et des poissons, pardon. Donc la multiplication des deux pains et des cinq poissons. Jésus guérit une foule de 5000 hommes. Ce passage nous parle de Moïse, qui dans le désert a prié Dieu pour envoyer de la manne et pour pouvoir nourrir un peuple hyper nombreux et qui avait faim. Ce passage nous dit aussi que Jésus est comme Élie. Qu'a fait Élie avec la veuve de Sarepta, eh bien, qui n'avait plus rien à manger avec son fils? Il a multiplié l'huile, il a multiplié la nourriture pour qu'elle puisse, la farine, pour qu'elle puisse se faire du pain, se faire à manger et survivre à la famine. D'ailleurs, Élie est aussi connu pour avoir ressuscité le fils unique d'une veuve, comme Jésus, au chapitre 8, le fait avec la fille de Jaïrus. Comme Jean-Baptiste, Jésus a la responsabilité de disciples qui le suivent, qu'il forme et qu'il veut ensuite envoyer pour transmettre son message. On voit par toutes ces caractéristiques que Jésus s'inscrit bien dans la continuité de Jean-Baptiste, d'Élie, de Moïse, à tel point que les gens de l'époque se posent la question, se disent « Mais est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est ressuscité? Est-ce que ce n'est pas Élie qui revient? Est-ce que ce n'est pas Moïse ?» La question se pose, mais elle est importante pour les personnes de l'époque, parce qu'en réalité, oui, Jésus est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Jésus est plus que Moïse, il est plus qu'Élie, il est plus que Jean-Baptiste. Et la preuve de cela, c'est que lorsqu'il y a l'épisode de la transfiguration, qui est aussi dans Luc 9, Jésus rencontre de manière surnaturelle, sur la montagne, qui ? Moïse et Élie. Et il discute avec eux. Et le fait même qu'il ait cette discussion avec eux montre bien que Jésus parle avec des prophètes et donc n'est pas lui-même, Moïse n'est pas lui-même Élie, mais qu'il est, il est aussi un prophète comme eux. Et en même temps, différent d'eux. Mais le plus frappant dans cette histoire de la transfiguration, c'est cette voix qui descend du ciel et qui dit, au verset 35, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » La voix ne dit pas « Voici Moïse, écoutez-le » ou « Voici Élie, écoutez-le ». Non, elle dit « Celui-ci, Jésus avec qui vous parlez, est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et ça fait écho à une même voix qui s'était révélée lorsque Jésus va au-devant de Jean-Baptiste, dans Luc 3, et alors qu'il se fait baptiser, une voix descend du ciel et dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Cette voix qui descend du ciel, c'est le sceau de Dieu pour dire « Oui, Jésus est bien un prophète, mais il est plus qu'un prophète, c'est un prophète unique. » C'est lui qui est là pour révéler enfin à ce peuple juif qu'il attend depuis longtemps le chemin pour aller vers Dieu, le moyen d'avoir une relation personnelle avec Dieu, le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Christ ainsi s'inscrit bien comme les prophètes en tant que celui qui doit apporter un message de la part de Dieu, mais il apporte un message qui désormais est complet, définitif, qui s'appelle l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est la révélation ultime de la part de Dieu, mais qui est la dernière révélation. Il n'y a plus rien à ajouter à ce que Christ a apporté sur la connaissance de Dieu. Alors, quelle implication personnelle on peut faire à partir de cette idée-là? J'aimerais vous proposer cette image. Ouais, elle a sauté. Où est-ce qu'il est, mon bonhomme? Il est là. Nirmal Purja. Vous connaissez certainement cet aventurier qui a un palmarès assez hallucinant. En 2019, c'est un alpiniste qui a réussi en 7 mois à gravir 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors moi, ça ne me parle pas énormément, parce que dit comme ça, ça paraît facile. Mais pour vous montrer juste la difficulté de ce défi, c'est que le précédent record, donc lui, il l'a fait en 7 mois. Le précédent record, c'était 7 ans. En réalité, pour parvenir à cela, alors lui-même, c'est un ancien militaire des forces spéciales britanniques. Donc c'est quelqu'un qui physiquement voilà, a quelques capacités. Mais en réalité, il avait toute une équipe autour de lui pour organiser la logistique, le transport, les camps de base. Voilà, il n'a pas fait ça tout seul. Et le parallèle avec ce qu'on apprend dans Luc, c'est que la manière dont Luc agence son texte et structure sa pensée pour convaincre le peuple juif que Jésus est bien un prophète, mais qu'il est plus qu'un prophète, c'est une organisation qui est extraordinaire. De la même manière que cet alpiniste a dû mettre en place une organisation incroyable pour parvenir à son record, eh bien, Luc, à travers son évangile, a fait preuve d'une finesse et d'une capacité de structure de son texte qui est fabuleuse et qui est vraiment là pour susciter chez nous l'émerveillement. L'émerveillement devant la beauté de la parole qui est vraiment là pour nous permettre de comprendre que Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Ce que Jean-Baptiste d'ailleurs a fait au chapitre 3 de Luc, lorsqu'il dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Quels prophètes attendent ces juifs de l'époque ? Eh bien, un prophète qui n'est pas seulement un prophète, mais un prophète qui est aussi un roi. Et ce passage nous montre très clairement que Jésus se présente aussi comme un roi. On a ici plusieurs, en référence aux différents passages de Luc 9, plusieurs caractéristiques de ce qu'est un roi. La première, la plus évidente, au départ, il envoie ses disciples comme des ambassadeurs pour partager la bonne nouvelle. Il nourrit une foule importante. Un des moyens que les empereurs romains ont utilisé pour conserver la paix sociale et la domination sur les citoyens romains, c'était d'organiser des jeux et de distribuer du pain. Les jeux du cirque étaient là pour amuser le peuple. Et en fait, le peuple venait massivement parce que les empereurs organisaient une distribution gratuite de pain à tous ceux qui le souhaitaient. Et donc, la responsabilité d'un roi, c'est de garantir que son peuple soit bien nourri. Et on pourrait citer plein d'exemples où lorsque le peuple n'est pas bien nourri, en général, le roi saute. Il guérit son peuple. On voit dans Luc 9 que Jésus est capable de chasser un démoniaque. Et c'est ce qu'on attend de la part d'un roi. C'est quelqu'un qui est regardé comme ayant des pouvoirs qui soient plus qu'humains et qui ait des capacités qui soient plus qu'humaines. Les enfants sont accueillis par ce roi. Dans cet exemple, on voit que c'est la responsabilité d'un roi de traiter ses sujets de la même manière, de manière égale, qu'ils soient petits, qu'ils soient âgés, qu'ils soient pauvres ou riches, le roi doit prendre soin de son peuple. Et enfin, une des dernières caractéristiques qui est frappante dans ce passage, c'est que ce roi, c'est un roi qui donne sa vie. Puisqu'en effet, le roi doit avoir en tête, avant son intérêt personnel, l'intérêt général de son peuple. Et c'est là où on arrive à un aspect intéressant de ce roi tel qu'il est rêvé et attendu par les Juifs de l'époque. Puisque on lit au verset 43 et 44 un contraste assez saisissant. Je vous relis ces versets 43, je vous lis ces versets 43 et 44. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, quant à vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Quel paradoxe entre ces deux phrases. D'un côté, on a le peuple qui commence à s'enthousiasmer pour ce prophète et ce roi qui en a toutes les caractéristiques et qui met tout le monde d'accord sur le fait qu'il est enfin le Messie attendu. Et lui, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Ouais, je suis là, allez-y, apportez la couronne. » Non, il dit « Quant à vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Car en réalité, même si Jésus se présente comme un prophète, comme le prophète, même si Jésus se présente comme un roi, comme le roi, en réalité, ce qui est au cœur de ce passage, c'est son projet principal. C'est d'être venu sur terre en tant que fils de l'homme pour aller mourir sur la croix. Il le dit à trois reprises. Il le dit au verset 22, au verset 31, au verset 44. On vient de lire le verset 44. Au verset 22, il dit « Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et puis verset 31, dans la transfiguration, « Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. » Même avec Moïse et Élie sur la montagne, de quoi il parle ? Eh bien, il parle de sa mort, il parle de sa résurrection, de son retour auprès du Père. L'implication pour les disciples, elle est lourde de conséquences. Parce que si ce roi n'est pas venu pour rétablir un royaume terrestre, si ce roi n'est pas venu pour chasser les Romains tels que les Juifs l'attendaient, eh bien, les disciples sont appelés à suivre le même modèle. Et c'est ce qu'on voit au verset 23 et 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et là, Christ met les disciples face à un choix et face à une réalité qui est... Le texte nous dit d'ailleurs qu'ils n'ont pas compris, hein. Parce que qui est complètement différente de ce qu'on pouvait imaginer ou de ce qu'ils s'attendaient à travers Christ. Christ leur explique que le suivre et l'accepter comme roi, l'accepter comme le prophète, c'est renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Alors qu'est-ce que ces expressions veulent dire ? Je vous donne un exemple personnel, mais avant ça, une citation de Francis Schaeffer. Jésus parle dans ce verset d'une mort librement choisie dans la vie présente. La Bible ne parle pas ici de sentiments romantiques, « je veux te suivre », ou d'idéalisme, ou d'un concept abstrait. Dans cet exemple, le rejet et la mort en question sont présentés de façon très concrète. Face à un monde hostile, il s'agit de dire non à soi-même, alors que nos désirs naturels nous poussent à rechercher l'approbation du monde, un monde pourtant en révolte contre son Créateur et notre Seigneur. J'avais 15 ans, je revenais d'un super camp de vacances pendant l'été avec l'Action biblique dans les montagnes suisses. Et c'est un camp qui a été pour moi un tournant dans ma marche avec Dieu. C'est le camp où j'ai compris que Jésus-Christ ne voulait pas être seulement mon sauveur, mais qu'il voulait aussi être mon Seigneur, c'est-à-dire le maître de ma vie. Et voilà que dans les jours qui ont suivi ce camp, j'ai commencé à lire les évangiles, et je suis tombé sur cette phrase de Luc 9, 23. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et à l'époque, ce passage, il m'a paru tellement clair, dans le sens où l'idée, c'était... Ben, quand tu vas, c'est l'été, c'est les vacances, quand tu vas reprendre les cours, eh bien, tu dois être prêt à assumer d'afficher ton étiquette de chrétien et d'assumer le fait que les réactions des personnes autour de toi soient mitigées et que tu dois accepter d'afficher ta différence par rapport à tes copains en cours, etc., par rapport aux invitations, aux fêtes et autres. Autre événement d'adolescent de 15 ans. Et je crois que c'est vraiment ça ce que nous disent ce passage et ce sur quoi ce passage nous interpelle. Si je veux suivre Christ, si je dois être prêt à renoncer à moi-même, ça veut dire que je dois accepter d'avoir cette étiquette de « je suis chrétien » et je l'assume et j'accepte de perdre l'image que je peux avoir d'une personne agréable et acceptable par tout le monde. J'accepte d'être confronté à des personnes qui vont peut-être avoir des réactions auxquelles je ne m'attendais pas, d'hostilité ou bien de rejet. Et pour moi, ce passage était tellement fort que directement j'ai eu cette prière de dire « Bon, ok Seigneur, j'accepte de laisser ma vie de côté et je t'accepte que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu sois celui qui est autorité sur ma vie et que le rejet que tu as pu recevoir, qu'il passe par moi, s'il doit passer par moi, mais ça fait partie de ma vie maintenant. » Cette nouvelle vie que Christ nous propose en acceptant de renoncer à nous-mêmes et de nous charger de la croix, c'est une vie en même temps qui est extraordinaire. Elle est confirmée par la transfiguration. Lorsque Christ est en présence d'Élie et de Moïse et qu'il passe un moment incroyable, à tel point que Pierre propose d'aller chercher une tente 3 secondes et puis de lancer un bivouac, eh bien, cette vie incroyable, finalement, c'est cela vers Christ, à quoi Christ veut nous emmener. Oui, d'un côté, il faut renoncer à soi-même, accepter de ne plus être le maître de sa vie, mais de l'autre côté, pour un gain incroyable, celui de pouvoir avoir une relation personnelle avec Christ et de pouvoir camper avec lui sur la montagne à chaque instant, tous les jours, pour pouvoir parler de son prochain départ, comme il l'a fait avec Élie, avec Moïse. Vous le voyez donc, Jésus est un prophète et en même temps c'est un roi, mais c'est un prophète et un roi qui a été complètement incompris par ses disciples et par les juifs de son époque. Alors ça va loin. À la fin de Luc 9, après ces versets 43-44, on lit que les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils viennent de participer à la transfiguration, ils viennent d'être enseignés par Jésus, de vivre des trucs incroyables, et ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Et loin de moi, l'idée de leur jeter la pierre en les traitant d'idiots, parce qu'en réalité, cela nous parle d'un défi énorme pour nous, à savoir que si notre compréhension de l'identité de Christ n'est pas correcte, si notre compréhension de qui est Christ n'est pas correcte, toute notre vie spirituelle et notre vie quotidienne peut être impactée. Je vous donne un exemple. Si je considère que, en lisant les évangiles, Christ n'a jamais été malade, dans la mesure où Christ vit en moi, je ne devrais jamais être malade. Alors, évidemment, c'est un raisonnement qui est très simpliste. Mais je peux avoir cette mauvaise compréhension de qui est Christ et puis qui peut m'amener à faire des choses idiotes. Si Christ a touché les malades et qu'il les a guéris, si Christ a touché des lépreux et qu'il les a guéris, moi je peux aller toucher des lépreux et puis les guérir puisqu'il a fait ça, sans me protéger, sans... Voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Si Christ vit en moi, alors ma vie professionnelle va aller de succès en succès. Si Christ fait en moi un enfant de Dieu, il ne fait pas pour autant de moi un super-héros. Les disciples, il y a quelqu'un qui demande aux disciples de chasser un démon, verset 40 de Luc 9. Et que dit Christ ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à chasser ce démon. Et c'est Christ qui doit intervenir et qui doit chasser ce démon. Ce passage nous rappelle que Christ est Christ et nous sommes des êtres humains. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas le prophète, nous ne sommes pas le roi. C'est Christ qui est le prophète et c'est Christ qui est le roi. Si Christ est tout puissant, c'est extraordinaire et nous sommes au bénéfice de cette puissance. Mais cette puissance, elle est au service de son œuvre et au service de Christ lui-même. Pour le dire autrement et plus concrètement, Nous avons et j'ai totalement besoin de Christ, mais Christ n'a pas besoin de moi. Cette semaine, on a un joli projet d'amélioration des locaux de l'église à Lyon. On a reçu le permis de construire de la mairie, vraiment content, après 6 mois de démarche. Et par souci de transparence, on a été rencontrer notre voisin direct pour lui présenter notre projet. Notre architecte est venu, on a une heure de discussion à peu près normale. Et voilà qu'en conclusion, le voisin a terminé en disant qu'il allait déposer un recours contre notre permis de construire. Et je vous avoue que j'ai mal dormi cette nuit-là. Et en fait, ça me pesait tellement sur le cœur que... Au boulot, je suis enseignant, donc j'étais en salle d'épreuve, j'ai interpellé mes autres collègues, et puis je leur ai raconté l'histoire. Et en fait, il y en a un qui m'a dit, peut-être que ce voisin, il a quelque chose contre une église évangélique. Et alors, je ne sais pas s'il a raison, mais c'était marrant que ce collègue, qui n'est pas croyant par ailleurs, évoque cette possibilité qu'en fait, c'était juste une réaction d'hostilité contre les évangéliques. C'est probable. En tout cas, moi, je remercie ce collègue parce que ça m'a fait tilt. Quel outil il nous reste face à des personnes qui ont des réactions qui sont émotionnelles et qui ne sont pas rationnelles? Quel outil on a? La prière. Et c'est là où c'est extraordinaire de savoir que Christ, qui est notre prophète, notre roi, et c'est notre recours contre les personnes qui ont du plaisir à nous mettre des bâtons dans des roues, parfois pour des projets aussi concrets que voilà, transformation de bâtiment. Christ est notre Tout-Puissant, et Christ est celui qui, dans la suite de Luc 9, va être présenté d'une manière toute particulière comme celui qui est un roi en voyage et qui présente son royaume au peuple d'Israël. Voilà ce que dit Luc, verset 51 de Luc 9, qui est un verset tournant dans l'Évangile. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision ou la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Ainsi se termine une page de Luc où l'objectif était d'insister sur l'identité de Christ. Et si vous lisez les versets suivants de Luc 9 et puis chapitre 10 et 11, vous découvrirez quelle est l'identité des disciples de Christ. Et en voyant à quel point leur compréhension bonne ou imparfaite de qui est Christ peut avoir des impacts sur la manière de vivre dans ce monde. Mais ça, je vous laisse le lire par vous-même.